autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur nos choix, nos réactions, nos décisions. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas toujours rationnels, ni appropriés. Et pour cause, notre cerveau, forgé par l'évolution, a gardé bon nombre de comportements et de modes de pensée archaïques, voire préhistoriques, qui furent très utiles à notre survie, mais qui ne sont plus du tout adaptés à nos réalités contemporaines. Pourquoi notre cerveau reste-t-il bloqué en mode parano quand il n'en a plus besoin? Et inversement, pourquoi ne prenons-nous pas la mesure de ce qui nous menace réellement? Comment prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause et de tous nos travers cognitifs, décisionnels, perceptifs? Tous ces biais de l'esprit, pour reprendre le titre de l'ouvrage de notre invité, Jérôme Boutan, grand empêcheur de penser en rond, autour de la question « Comment déjouer les biais de l'esprit ?» Bienvenue. Bonjour Jérôme Boutan.
Bonjour.
Merci d'être venu sur nos ondes, partager et déjouer les biais de l'esprit. C'est le titre de votre ouvrage, sous-titré « Comment l'évolution a forgé notre psychologie », édité chez Odile Jacob et écrit à quatre mains avec votre complice, le mathématicien Michel de Lara. Avant de découvrir, Jérôme Boutan, pourquoi et comment notre esprit est biaisé, j'ai d'abord envie de vous demander pourquoi et comment, alors l'ingénieur agronome que vous êtes, économiste de formation, directeur aujourd'hui du Centre technique d'études de la pollution atmosphérique et du changement climatique, s'est-il intéressé à la psychologie évolutionniste et à nos biais de l'esprit?
Alors, il y a certainement plusieurs raisons. D'une part, en dehors de toute considération de diplôme, je suis probablement comme tout le monde, c'est-à-dire je suis curieux de la façon dont l'esprit fonctionne, donc je veux me connaître moi-même, connais-toi toi-même, dit Socrate, et je veux connaître les autres. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est le premier moteur, probablement. Le deuxième, c'est que j'ai été, donc ces dernières années, confronté à des problématiques environnementales et donc qui sont un petit peu neuves dans le destin de l'humanité, le changement climatique, par exemple, pollution atmosphérique, que nos ancêtres lointains ne connaissaient pas. Et donc, je me suis passionné rapidement sur la façon dont ces risques nouveaux pouvaient être appréhendés par le cerveau, par l'esprit, de façon éventuellement à espérer à ce que la communauté, la collectivité humaine s'organise et prenne et les bons réflexes pour lutter contre ces risques. Et enfin, donc, vous l'avez dit, je suis en partie économiste. Il se trouve que j'ai participé à un programme de recherche avec l'École d'économie de Paris, d'ailleurs avec mon complice Michel de Lara, il y a quelques années, et qui avait trait au comportement de l'épargnant. Après la crise de 2007, les banques et les compagnies d'assurance ont eu l'obligation de resserrer un petit peu leur offre crédit ou leur offre d'assurance en fonction du profil psychologique risque des épargnants, c'est-à-dire pour ne pas offrir à n'importe qui, n'importe quel produit, que les gens aient bien conscience du niveau de risque du placement financier qu'ils font. Et là, ça nous a ouvert une littérature, si vous voulez, qui a démarré avec l'économie comportementale et qui a dérivé jusqu'à la psychologie évolutionniste, une approche décapante de la façon dont fonctionne l'esprit.
C'est ça, une approche décapante qui nous montre aussi pourquoi nous agissons parfois aussi irrationnellement. Alors, par rapport à l'environnement, on va en parler, pourquoi on ne réagit pas plus, par rapport à l'économie, à la manière dont nous acceptons les risques ou pas. Et dans cette psychologie évolutionniste, vous trouvez quoi? Peut-être pas des réponses, mais en tout cas des pistes qui nous expliquent qu'il faut remonter très loin dans la construction de notre cerveau pour comprendre ça.
Alors, on y trouve des réponses, mais fait complètement novateur de la psychologie évolutionniste, des réponses sur le pourquoi des choses. Pourquoi l'esprit fonctionne-t-il de cette façon? Pourquoi avons-nous tendance à ne pas respecter la théorie économique de l'homme rationnel, l'homo economicus rationnel? Pourquoi dévions-nous, en fait? Avons-nous une vision biaisée de la vie en général et des événements en société, et avec l'autre, et avec les autres, et avec soi-même? Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que que la recherche s'est engagée, que le travail de réunir des matériaux académiques s'est réalisé.
Et vous commencez alors cet ouvrage passionnant, hein, et puis qui est une approche quand même assez ludique, hein, de cette psychologie évolutionniste, parce qu'il y a plein d'exemples, on va y venir, qui nous touchent tous. Votre premier chapitre, c'est comment l'esprit vient aux hommes, et pour ça, il faut remonter très loin dans le temps.
Alors, il faut remonter, donc on pourrait dire que tous les vertébrés ont déjà probablement un esprit, mais sans remonter aussi loin, on peut remonter à 7 millions d'années environ, c'est-à-dire la date où on retrouve le dernier ancêtre commun entre les hominidés, nous-mêmes, toute cette lignée d'Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens nous-mêmes, et les singes de notre côté. Donc il faut remonter au moins à 7 millions d'années pour trouver cet esprit commun aux singes et aux premiers hommes. Et ensuite, les hommes ont évolué du fait de la sélection naturelle, darwinienne, hein, c'est-à-dire qu'un certain nombre de mécanismes d'adaptation, de modification organiques, physiologiques, anatomiques ont été retenus par cette sélection et qui a donné toute la lignée des humains jusqu'à nous.
Ce qui explique, par exemple, hein, on peut donner un premier exemple très simple, c'est que quand on voit un bâton tordu, on le prend pour un serpent, ça nous a été très utile, c'est peut-être plus utile aujourd'hui.
Alors voilà, c'est un point très important, effectivement. Ce qui nous rattache du passé, par exemple nos lointains ancêtres, et peut-être même ce fameux dernier ancêtre commun il y a 7 millions d'années, ou d'autres hominidés plus récents, comme Homo erectus, Homo habilis, en fait, tous ces hominidés, ceux qui ont survécu ont su correctement interpréter, parfois faussement, un frisson dans l'herbe comme n'étant pas l'effet du vent, mais qu'étant possiblement l'effet d'un serpent qui se dirige vers eux. Quitte à faire bon nombre d'erreurs et de détours pour rien lorsqu'ils se promenaient, parce que 9 fois sur 10, effectivement, c'était bien le vent ou une autre bricole
Mais il valait mieux avoir trop peur.
Voilà, il valait mieux être légèrement paranoïaque. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie du paranoïaque optimiste de Hazelton et Nuttall. Ces deux chercheurs ont mis en évidence qu'un certain degré de paranoïa reste sociable et même un avantage adaptatif héritable et était hérité de nos lointains ancêtres. En l'occurrence, nous sommes tous, vous et moi, et tout le monde autour de nous, des descendants de ceux qui ont été légèrement paranoïaques au point de toujours interpréter un bruissement dans l'herbe comme un serpent.
Ont réussi à survivre.
Hein. Et ceux-là ont réussi à avoir une descendance. Et cette descendance de la descendance de la descendance, eh bien, ce sont nous aujourd'hui. Donc nous sommes tous paranoïaques à un certain degré, mais optimistes parce qu'il n'y a pas de défaitisme là-dedans, c'est juste un biais. Voilà un exemple de biais adaptatif.
Alors, autour de la question, pourquoi sommes-nous tous paranoïaques et finalement, ça nous a bien servi? Comment l'évolution a forgé notre psychologie? Je propose une nouvelle question, soulevée cette fois-ci par un pionnier de l'éthologie, hein, de l'étude du comportement des autres animaux, Bernard Poulain, auteur de « À quoi pensent les animaux ?». Écoutez son éclairage et sa question, elle est pour vous.
Notre cerveau n'est pas une construction récente, c'est vraiment le fruit de l'évolution. Et donc, c'est intéressant de comprendre ce que les autres primates, puisque nous sommes des primates, ont apporté ou ont développé particulièrement dans leur capacité et qu'est-ce qu'on a perdu par rapport à d'autres. On a des singes, par exemple, qui ne voient pas la vision des couleurs. Nous, on est capable d'avoir la vision des couleurs. Ce ne sont pas tous les singes qui l'ont. Le fait, par exemple, qu'on utilise ce qu'on appelle, nous, les aires de Broca et de Wernicke chez l'humain qui servent pour l'encodage de la parole et le décodage de la parole des autres, le langage. Et c'est quand même extrêmement fascinant de voir que les travaux d'Adrien Merguidian à Marseille, par exemple, ont montré qu'il y a une analogie avec des zones équivalentes chez le babouin et qui lui servent pour tout simplement la communication gestuelle. Et d'ailleurs, pendant que je vous parle, je suis en train de faire des gestes. Et donc, c'est probablement les mêmes aires du cerveau qui servent à coder mes mouvements corporels de la communication gestuelle et ceux du langage. Donc, la question que je poserai, c'est combien le cerveau humain est l'héritage, effectivement, de tous les autres animaux.
Votre réponse, Jérôme Boutan, nous sommes dotés d'un vieux cerveau, héritier aussi des autres animaux, mais...
Alors, tous, en fait, les singes et les humains sont tous des fruits de la sélection naturelle. Donc, ils sont le fruit d'une évolution graduelle et lente de caractères adaptatifs qui ont été hérités. On dit qu'il y a environ 98% du patrimoine génétique en commun entre les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans et les gorilles, et les hommes. Donc déjà, au niveau génétique, la différence paraît assez mineure. Et donc, on est conduit à penser que la différence qui existe entre eux et nous, entre ces grands singes et les hommes, est plutôt une différence de quantité, si vous voulez, de complexité, que de nature. Je vous donne un exemple. Le chercheur écossais Robin Dunbar, enfin, qui est à l'université d'Oxford, a mis au point ce qu'il appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité des personnes, de tout humain, à se mettre dans l'esprit de l'autre. C'est imaginer les intentions d'un autre. C'est en gros, je pense qu'il pense que je pense, qu'il a dit, etc. Jusqu'à un certain degré de ramification, de sophistication. Tous les hommes sont dotés d'une certaine théorie de l'esprit, il est important de pouvoir anticiper ce que l'autre pense. Les grands singes, on le sait par un certain nombre d'expériences, sont aussi dotés d'une théorie de l'esprit, mais un degré moindre. Ils vont s'arrêter à « je pense qu'il pense ». Alors que nous irons un petit peu plus loin, « je pense, qu'il a dit, qu'il pense, qu'il a dit, etc. » En revanche, les singes qui n'appartiennent pas à ces écuries, par exemple les babouins qui ont été cités tout à l'heure, le macaque rhésus, ne sont pas apparemment dotés d'une théorie de l'esprit. Et donc c'est cette complexité croissante qui va de pair avec l'expansion du cortex qui fait la différence entre eux et nous, entre les singes et nous, mais pas une différence fondamentale de nature. Ils ont des biais cognitifs comme nous en avons.
Ils ont des biais cognitifs. Alors, autour de cette question des biais cognitifs, des biais de l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'un biais de l'esprit? Puisqu'on tourne autour de cette question dans cette émission. Comment vous le définiriez, un biais de l'esprit? C'est une réponse non appropriée à quelque chose?
Ah non. Non, alors justement, le biais de l'esprit, le biais cognitif, peut être une réponse appropriée à un problème, comme il peut être une maladaptation, c'est-à-dire inappropriée au problème. Le biais est un instinct cognitif qui a été retenu par la sélection et transmis de génération en génération pour l'avantage adaptatif en matière de survie et de reproduction qu'il donnait à ses porteurs, donc aux hommes, hommes et femmes qui le portaient. Les biais correspondaient donc à un environnement particulier qui a été celui de nos ancêtres préhistoriques.
Et qui a changé.
Et parfois il a changé. Alors, par exemple, vous disiez tout à l'heure, être paranoïaque à propos d'un serpent, interpréter un bâton comme un serpent, ça a été probablement très très utile il y a 200 000 ans lorsque l'homme circulait dans la savane et qu'effectivement il y avait beaucoup de serpents. Aujourd'hui en ville, il y a très peu de serpents. Et on continue à porter ce biais en nous qui a peur des serpents, suite d'aller aux zoos et tout d'un coup la peur instinctive des serpents revient. Le problème du biais, c'est qu'il est donc le reflet d'un environnement fossile. Parfois, cet environnement n'a pas changé. Parfois, en ville, par exemple, il est complètement différent.
Alors, il y a des biais, on va y venir, des biais cognitifs, des biais décisionnels, des biais perceptifs. Vous nous avez proposé un petit exemple sonore, puisqu'on est à la radio, d'un biais de perception sonore. Je propose d'écouter ce son d'hélicoptère. Hugo Violas nous l'envoie. Commence à me faire peur là, cet hélicoptère. C'est ça que vous vouliez me faire entendre, Jérôme Boutan.
J'espère que vous avez peur. Comme moi, je commence à sentir une certaine appréhension puisque j'y vois une menace ou approchante. Donc là, en fait,
alors que Hugo Violas nous a envoyé un son d'hélicoptère, notre réalisateur,
c'est tout.
Et il a augmenté le son.
Il a augmenté le son. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, si l'exemple d'un biais. Nous sommes câblés génétiquement pour interpréter un son d'intensité croissante comme correspondant à un projectile ou un objet se déplaçant vers nous, s'approchant de nous. Première chose. Donc évidemment, les individus qui n'étaient pas porteurs de ce câblage génétique n'ont pas survécu, parce que ceux-là n'ont rien anticipé du tout. Ils n'ont pas su faire la corrélation entre l'intensité de ce son et la proximité de l'objet.
Donc là, c'est une illusion, c'est une illusion de notre esprit.
Un travers,
voilà, mais un son qui augmente, on a l'impression qu'il se rapproche.
Et deuxième chose, qui est encore plus forte, il y a aussi un câblage qui sous-estime la distance réelle qui vous sépare de cet objet avançant. C'est-à-dire que non seulement on pense qu'il avance, mais quelque chose dans le cerveau a été retenu, un module, si vous voulez, cérébral a été retenu, alors qu'il donne une information biaisée et qu'il aurait pu donner une information exacte sur la réelle distance qu'il sort d'objet pour sous-estimer cette distance. Pourquoi? Parce que ce biais a été retenu comme donnant un avantage adaptatif. Ça donne plus de temps à la personne pour se prémunir du danger, imaginez qu'une flèche ou un projectile soit dirigé vers vous. Vous pensez que le projectile est à 1 mètre, alors qu'il est encore qu'à 3 mètres. Et ça vous donne du temps pour l'éviter, etc. Et vous survivez, vous avez des enfants, et nous sommes tous les descendants des gens qui, porteurs de ce biais, sous-estimant la distance qui nous sépare de ce
danger. On en revient à notre cerveau un peu parano, parano-optimiste. De même, vous citez alors plein d'exemples dans votre livre, mais on comprend un peu mieux le code de la route. Par exemple, pourquoi un triangle rouge à l'envers, c'est un signal d'alerte si fort?
Alors, nous avons reconfirmé ce qui était présent à la littérature académique concernant la puissance des signaux visuels, surtout les signalisations routières. Il est tellement important qu'en peu de mots, et si possible pas de mots du tout, de très loin, on puisse exprimer l'occurrence d'un risque ou d'un danger. Bon. Donc, en l'occurrence, on a repris cette expérience, on a testé auprès de groupes de personnes, si vous voulez tirer au hasard dans la population, comment ils percevaient différentes formes. Et il s'est avéré, et on retrouve des conclusions académiques, que ce sont les formes les plus instables par rapport à la gravité terrestre qui sont jugées comme représentant le danger le plus fort. La forme la plus instable est un losange ou un triangle à l'envers.
Ah oui, qui ne tient pas bien sur sa pointe.
Sur sa pointe. Vous le remettez sur sa base, vous avez une pyramide, et là, c'est au contraire un exemple de totale stabilité. Lorsque les personnes en charge essaient d'élaborer des panneaux de signalisation routière, eh bien, dès lors qu'ils vont vouloir des risques ou dangers, ils vont utiliser deux choses, préférentiellement. D'abord, une forme instable, au regard de la gravité, triangle à l'envers par exemple, et la couleur rouge, parce que cette couleur rouge, elle aussi, a été câblée, sa perception a été câblée génétiquement, elle est, selon Shepard, un chercheur américain, liée à cette couleur dans le spectre visuel qui précède la nuit. Donc c'est la dernière couleur qu'on voit lors du crépuscule, et donc là il faut se mettre à l'abri. Si vous n'avez pas compris qu'il fallait se mettre à l'abri à l'apparition d'une couleur rouge, vous n'avez pas survécu et vous n'avez pas transmis, etc. Donc nous sommes tous sensibles à la couleur rouge.
C'est comme ça qu'on fonctionne tous, on va y revenir, parce qu'on est vraiment tous des humains câblés de la même manière. Après, on peut déjouer, puisque c'est la thématique de cette émission, on peut aussi déjouer ces biais de l'esprit. Donc on est tous pareils et en même temps, il y a des biais de l'esprit plus utiles que d'autres, notamment des biais d'esprit plus féminins ou plus masculins. Et on comprend pourquoi, c'est pour notre production, pour notre évolution.
Oui, donc il est avéré et il est bien logique de penser que le cerveau étant un organe comme un autre, le cerveau des femmes a évolué différemment de celui des hommes.
Et donc, c'est pas mieux ou moins bien,
non,
on est d'accord, c'est différent.
Il n'y a pas d'ordre, etc. Je vais vous donner un exemple. Le psychologue Simon Baron Cohen a écrit un livre sur cette différence entre hommes et femmes. Et il disait d'ailleurs, de façon avec beaucoup d'humour, mais beaucoup de crainte, il dit « Oh là, je rentre dans un terrain où je vais me faire tabasser. » Mais j'exprime simplement une réalité observée par les tests. Il dit finalement, il y a une différence moyenne entre la façon dont l'esprit des hommes fonctionne par rapport à celui des femmes et réciproquement. Il met sur deux axes, finalement, les hommes et les femmes, et il regarde le degré d'empathie, c'est-à-dire le degré de considération que vous avez pour les émotions d'autrui, plus ou moins d'empathie, et regarde votre capacité à construire, comprendre un système, comprendre une organisation. En moyenne, les hommes se distribuent plus vers un manque d'empathie, et une capacité d'organisation et de compréhension des systèmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui ne seraient pas douées d'organisation des systèmes. C'est-à-dire qu'il y a une zone de recouvrement, évidemment, entre les hommes et les femmes.
Et puis on peut être un homme est plus féminin et une femme est plus masculine.
Donc, homme plus féminin sera doté de plus d'empathie que la moyenne des hommes et il n'en sera pas moins un homme. Et une femme, un peu moins féminine, entre guillemets, aura une capacité très forte en organisation et compréhension des systèmes. Elle n'en sera pas moins une femme. Mais là, on voit quand même qu'en moyenne, ces esprits sont différents.
Autour de la question comment déjouer ces biais de l'esprit, on comprend un peu mieux, mais vous allez nous l'expliquer aussi pourquoi vous avez choisi cette chanson de Diane Tell, « Si j'étais un homme », qu'on écoute tout de suite sur RFI.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Je t'emmènerai en voyage en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums.
Telle sur RFI, si j'étais un homme, autour de la question des biais de l'esprit. Pourquoi ce choix, Jérôme?
Alors, j'adore cette chanson. Hein. Je suis toujours très ému en l'écoutant. Et je me rends compte que j'adore maintenant des chansons et des livres, que j'appelle les classiques, ceux du moins qui touchent de près à la psychologie évolutionniste, en réalité qui touchent aux biais cognitifs. Là, dans cette chanson, vous avez une sorte de fantasme où une femme se mettrait à la place d'un homme et dirait les choses que socialement on accepterait peu d'une femme, mais qui seraient considérées comme normaux de la part d'un homme. Donc elle voit bien la différence entre deux esprits, deux comportements, et elle joue avec cette idée. Donc je trouve ça vraiment délicieux parce qu'il y a une transposition d'homme à femme vraiment très bien.
Et plus, elle se dit « et les temps ont changé ».
Et les temps ont changé, donc... Avec cette zone de recouvrement où les hommes peuvent jouer à être plus féminins et les femmes plus masculines. Donc il y a vraiment beaucoup de reflets, beaucoup de mise en abîme dans cette chanson. Mais voilà, et donc en fait, quel est le biais fondamental et pourquoi finalement les hommes peuvent dire des choses que les femmes ne diraient pas et inversement? Et en l'occurrence, on apprend que les hommes prendraient rapidement des maîtresses et n'ont pas l'air de prendre beaucoup de temps, de se préoccuper beaucoup d'autres choses, alors que les femmes ont l'air de prendre beaucoup plus de temps pour choisir. Ben, tout ceci a été bien illustré par les travaux du biologiste Trivers, un Américain de Harvard, qui a, il y a une vingtaine d'années, qui a décrit la théorie de l'investissement parental. Rappelons-nous quand même que les femmes sont celles qui investissent le plus de leur temps et de leur énergie dans la procréation, dans le soin et l'éducation des enfants. Quel est le coût pour un homme de la reproduction? Le coût pour l'homme produit du sperme en permanence, en continu. Il est conçu comme ça et son sperme contient des millions de spermatozoïdes. Chaque spermatozoïde est égal à un trillionième de gramme. Donc son coût, c'est de produire un trillionième de gramme.
C'est pas énorme.
Alors que la femme, elle produit en 9 mois un individu qui est entre 3 kilos et 5 kilos, disons. Mmh. Et ensuite, qu'elle va devoir allaiter, etc. Bon, tout le monde connaît. Donc, cette théorie de l'investissement parental décrit ces raisons de différence par le fait que l'investissement étant plus grand du côté des femmes, eh bien, il est tellement... Alors que leur créneau de fertilité sont très peu nombreux. On estime qu'une femme est fertile environ 25% de son existence. Donc, entre les règles, le cycle lui-même, la période de fertilité, de fécondité, les créneaux sont très peu nombreux. La femme en a inconsciemment, le sait inconsciemment. Et donc, elle va avoir tendance à bien réfléchir et bien étudier le comportement d'un homme pour savoir si c'est le bon. Parce que si ça n'est pas le bon, le risque pour elle, c'est de devoir faire tout l'effort pour rien, mais toute seule, étant laissée ou abandonnée par quelqu'un, alors que trouver le bon, c'est aussi cumuler de ressources, cumuler du temps et des énergies.
Voilà ce qui explique donc ces biais de l'esprit qui ont donc, même si les temps ont changé, hein, disait Diane Tell, même si beaucoup de choses changent, et on va y venir aussi, c'est-à-dire comment nous adapter finalement, comment résister, déjouer ces biais de l'esprit qui sont parfois utiles, vous venez de l'expliquer, et c'est tout le thème de la question que soulève pour vous Carole Châtelain, rédactrice en chef de Science et Avenir. Écoutez-la, Jérôme Bouton.
Est-ce que ces biais de l'esprit ne sont pas indispensables à la façon que nous avons de réfléchir, puisque nous aurions un système qui est dit heuristique et qui serait assez rapide et immédiat pour nous permettre d'agir justement? Est-ce que ça n'est pas intrinsèquement biaisé de ne pas avoir le temps de peser le pour et le contre?
Que pouvez-vous répondre à cette question? Est-ce que finalement, ces biais ne nous sont pas utiles puisqu'il nous faut réagir très rapidement? Si on devait à chaque fois revenir et ne pas utiliser nos automatismes, on n'arriverait pas à prendre des décisions non plus, les bons choix.
Alors, les biais sont toujours utiles lorsqu'ils correspondent à, je dirais, à la réaction maximisant la possibilité de survie ou de reproduction, et donc lorsque le danger ou l'événement anticipé est toujours réel et existant. Il n'est plus utile lorsque la réalité a changé et que le biais se met pourtant à l'œuvre. Donc effectivement, il y a deux systèmes de réaction, si vous voulez, deux systèmes cognitifs qui existent, mais à des vitesses différentes, comme l'a dit cette personne de Science et Avenir. Effectivement, il y a une heuristique, c'est-à-dire il y a une façon très très rapide de ne pas penser à analyser la chose pour pouvoir réagir très vite. C'est-à-dire la peur, par exemple, est un heuristique qui permet de prendre des dispositions pour fuir, par exemple, sans s'être assuré de la réalité de la menace ou l'avoir analysée. Parce que l'analyse prend trop de temps par rapport à la survie. Donc le cerveau n'est pas là pour donner, pour comprendre le monde. Donc ça, c'est quand même très fort. Non, le cerveau n'est pas là pour comprendre le monde. Le cerveau est un organe qui est là pour maximiser les possibilités de survie et de reproduction d'un individu et en dessous de l'individu pour maximiser la fréquence avec laquelle les gènes qu'il porte seront transmis de génération en génération. Donc c'est une stratégie du gène, le gène égoïste de Richard Dawkins, un ouvrage d'il y a 30 ans qui est toujours à recommander, qui dit que finalement tous ces comportements qui ont l'air égoïstes, tous ces comportements qui ont l'air irrationnels, entre guillemets, trouvent tout leur sens lorsqu'on regarde le niveau en dessous, au niveau des gènes. Les gènes, en fait, ne pensent pas, ce sont des molécules complexes, ils ne pensent pas. Mais tout se passe comme si, par l'opacité de réplication, puisque l'ADN se réplique, l'ADN c'est le matériau du gène, eh bien que les gènes qui ont une plus grande possibilité de se répliquer, se retrouvent plus fréquemment dans les descendants ultérieurs et supplantent tous les autres gènes dans les descendants. Donc, un gène porteur d'un avantage adaptatif a toutes les chances de se retrouver en position dominante au bout de quelques générations. Celui qui a le gène de la peur, et celui, le premier qu'il a eu, si vous voulez, pour caricaturer, évidemment, a fait beaucoup de descendants.
Parce que ça sert à quelque chose, ça a servi à quelque chose, sauf que les temps ont changé, donc voilà, on va y venir là également, mais je vous propose de continuer sur cette piste de la peur et de l'évolution qui a forgé notre psychologie pour le meilleur, hein, pour prendre la fuite, mais aussi pour le pire, la peur, l'angoisse, avec un nouvel éclairage du biologiste de l'évolution Frédéric Thomas. Il dirige lui le Centre de Recherche Écologique et Évolutive sur le Cancer à Montpellier. Il est pionnier d'une nouvelle approche révolutionnaire du cancer, justement à la lumière de cette biologie de l'évolution. Selon lui, toutes les maladies finalement physiologiques et psychiques gagneraient en tout cas à être étudiées sous cet angle évolutif. On l'écoute.
On s'aperçoit par exemple que l'anxiété, aujourd'hui ça peut sembler être une pathologie, autrefois ça pouvait être une adaptation dans des environnements dangereux. C'est-à-dire que seuls les anxieux, voire les hyper-anxieux, arrivaient à survivre, eux ou leurs petits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde qui aura profondément changé, où on a peu de chances de se faire attaquer par un prédateur ou une bande rivale, eh bien on n'a que les désagréments de cette adaptation et on n'a plus du tout les bénéfices. La dépression également peut être perçue comme une adaptation qui consiste à forcer un individu à abandonner un objectif lorsque celui-ci n'est pas atteignable. Alors, la sélection naturelle est complètement amorale, hein, donc c'est pas forcément agréable d'être dans un état dépressif. N'empêche que si ça permet à un individu de sauver sa vie plutôt que de continuer à rechercher un objectif qui est inatteignable, ça lui permettra en termes évolutifs de se reproduire par la suite, etc. Donc, bien sûr, lorsque on a des formes qui sont excessives, c'est comme, si vous voulez, avec la température, hein, la fièvre. Au départ, c'est une adaptation du corps pour lutter contre les agents infectieux. C'est vrai que si c'est trop élevé, il faut forcément la baisser. Donc là, je suis absolument pas en train de dire qu'il faut laisser les dépressifs dans un état dépressif et les anxieux. Voilà. Simplement qu'à la base, ça peut être des adaptations. Et donc, bon, c'est tout à fait normal dans une population, en tout cas, qu'il y ait des individus qui soient extrêmement anxieux, d'autres moyennement anxieux et d'autres pas du tout. C'est distribué comme une courbe de Gauss, vous savez, la courbe normale, dans laquelle vous avez, comme la taille, hein, vous avez des très grands, des très petits, puis des gens qui font à peu près la même taille. Bien, c'est pareil pour la santé mentale. Et tout ceci vient de notre histoire évolutive.
Vous voulez réagir à ces propos de Frédéric Thomas qui propose, comme vous, une grille de lecture, une nouvelle approche de nos mots par cette psychologie évolutive, par la biologie de l'évolution, Jérôme Boutan.
Alors, dans l'ensemble, je partage complètement ce point de vue. Alors, peut-être avec le bémol près, mais oui. Je n'en suis pas un spécialiste total sur l'anxiété, en fait. Je sais qu'il existe un débat sur savoir si l'anxiété est véritablement un biais adaptatif, une adaptation ou un trouble. On sait, en tout cas, que la peur qui peut être à l'origine de certaines anxiétés. La peur, elle, est un avantage adaptatif. Mais à ce bémol près, le raisonnement, c'est ce qu'on le retrouve complètement dans la littérature de biologie évolutionniste et psychologie évolutionniste. On a pris l'exemple du paranoïa tout à l'heure, optimiste. Jusqu'à un certain degré, la paranoïa est socialement acceptable. Mais évidemment, il y a des gens qui sont vraiment très paranoïaques, qui le sont davantage. Et on conçoit bien que certains ont une telle degré de paranoïa que leur vie sociale en est affectée, et peut-être même le bien-être de la communauté.
Et puis moi j'ai aussi envie d'en arriver à ce qui vous a amené finalement à cette réflexion sur le biais de l'esprit, sur la psychologie évolutive. C'est notre réaction à ce monde qui change, aux questions environnementales, au changement climatique. Vous avez aussi fait le constat qu'on, peut-être ce sont nos biais de l'esprit, mais qu'on résiste complètement à tout changement, qu'on a tous envie que notre planète continue à héberger la vie, etc. Mais enfin qu'on fait tout le contraire. Comment ça se fait qu'on résiste autant ? Est-ce que justement notre cerveau, qui est ancien, a évolué, mais qui a été forgé dans les premiers temps de l'humanité, est-ce que notre cerveau est capable de s'adapter, de réfléchir aux enjeux d'aujourd'hui ?
Alors, c'est une des questions qui a motivé ce livre, effectivement. Vous dites que finalement, nous résistons au changement, et c'est encore un biais adaptatif, c'est-à-dire le biais de statu quo qui tente à privilégier le maintien en l'état plutôt qu'un changement, a prouvé son efficacité adaptative. Pourquoi ? On sait depuis un modèle qu'on appelle la théorie des perspectives de Kahneman-Tversky dans les années 80, que les pertes en fait, sont perçues presque le double en importance de gains potentiels. Donc, vous avez un statu quo. Autour du statu quo, vous avez une possibilité de changement. Si vous gagnez, eh bien, vous avez une appréciation à peu près réelle de ce que vous gagnez, psychologiquement. Mais si vous perdez de ce changement, vous avez une appréciation double de cette perte. Donc il est beaucoup plus douloureux de perdre que de gagner.
On se rappelle beaucoup plus de nos pertes que de nos gains, de nos victoires.
Exactement. Elles marquent davantage, ont davantage prépondérance. Et donc sortir du statu quo, c'est prendre le risque à s'exposer à des pertes douloureuses. D'où l'idée de statu quo. Et sur les grands enjeux actuels, donc on se souvient peut-être de la phrase de George Bush senior, ex-président des États-Unis, qui disait à propos du changement climatique à la conférence de Rio dans les années 90, fin des années 90, s'il s'agit de remettre en cause le mode de vie des Américains, ce sera non. Le mode de vie américain, c'était une maison individuelle, loin du lieu de travail, deux voitures au moins, la maison complètement climatisée, etc. Donc, on concevait bien. Et donc, tout ceci sans confortable, pourquoi devoir en changer ? Avec le risque de s'exposer à une situation de déséquilibre. Donc, voilà un biais qui nous a été très utile, mais qui, dans des environnements qui ont changé, les choses ont changé, est un défi, puisque il faut certainement changer quelque chose. Face à de nouveaux enjeux.
Et comment justement ? Parce qu'on sent bien que ce qui sous-tend cette étude, cette réflexion sur les biais de l'esprit, sur l'évolution qui forge notre cerveau, ce qui sous-tend, c'est quand même comment on fait. Comment on fait pour, garder tous ces biais d'esprit qui nous sont utiles, parce qu'on n'a pas le choix. Mais comment on fait pour les déjouer ? Comment on fait pour réagir ? Comment on fait pour accepter le changement, qui est aussi la vie, le moteur de la vie, surtout aujourd'hui, où on n'a pas le choix, et où le monde a changé, et où nous changeons. Nous sommes dans un monde interconnectés, tout change.
Là est la question, effectivement. Donc il faut souvenir que un biais est issu d'un câblage neuronal particulier et qu'il faut environ 200 générations pour qu'apparaisse un nouveau biais. Donc ça nous ramène à l'époque romaine. Donc depuis l'époque romaine, les humains sont tous pareils. En gros, ils ont tous hérité de biais. Donc on fait avec. On est là avec nos biais. Donc soit on fait avec, c'est-à-dire qu'on sait, on prend conscience de soi-même les connaissances. C'est l'objet de ce livre. Connaissez vos biais. Connaissez-vous vous-même.
Pour au moins
et connaissez
savoir,
les autres. Au moins vous êtes un individu informé. Un individu informé en vaut deux. Pour reprendre l'expression populaire. Donc, vous connaissez. De cette connaissance, vous espérez avoir donc orienté l'éducation. Donc, ça veut dire que toutes les méthodes d'éducation ne se valent pas. Celles qui sont potentiellement les plus ajustées, les plus percutantes, sont celles qui correspondent à nos biais, à l'existence d'un cerveau doté de biais.
Par exemple, celles qui ignorent
les biais ne fonctionnent pas.
Mais par exemple.
Des méthodes de lecture, par exemple. Donc, pareil, le langage est un instinct. Donc, un livre de Steven Pinker, un psychologue, The Language Instinct, un fabuleux livre. Certes, mais la lecture, non. C'est-à-dire que les lectures et l'écriture, non. Et donc, il faut détourner les fonctions pour lesquelles elles ont été faites d'autres modules cérébraux pour pouvoir écrire. Et donc, c'est ayant conscience de cette difficulté que les méthodes de lecture ne se valent pas. Donc, il faut imaginer une méthode de lecture qui joue sur les biais ou joue à travers les biais, mais les connaissent en tout cas. Et donc, on ne peut pas dire... Donc, une méthode d'éducation, méthode éducative sur les maths, sur la lecture, etc., ne peut pas être juste un choix social en disant « ce serait bien de commencer par ceci, moi je pense que cela ». Il faut revenir à des données biologiques, des données physiques et... baser en fait ces méthodes éducatives sur la vraie connaissance scientifique de la façon dont l'esprit fonctionne.
Et par exemple sur les questions écologiques, environnementales, puisque c'est quand même votre grand sujet, comment faire pour que pour qu'on ne reste pas complètement impuissant, bloqué dans une... Alors pour le coup, c'est pas une parano, c'est le contraire. Enfin, ou alors on est trop parano, ou on ne l'est plus du tout, et en ce cas, on ne change plus rien.
Alors, et il y a deux types de populations, je veux dire, il y a les experts du climat, mais les scientifiques sont des êtres humains comme les autres, ils sont aussi biaisés. Donc, leur idée...
C'est pas facile.
Donc, en fait, la science, c'est une tentative de débiaiser. Donc, la science, c'est un bouclier anti-biais. C'est-à-dire, c'est une méthode qui procède par proposition et réfutation par l'expérience, qui essaye, sachant qu'on a des biais, eh bien, de procéder avec cette méthode scientifique, avec une certaine méthode, théorie, réfutation, expérimentation, réfutation. Et à un moment, si la réalité ne correspond pas à la théorie, c'est la théorie qui doit être changée. Donc les scientifiques ne sont pas à l'abri de ça, mais ils procèdent au moins avec une méthode. Les individus eux-mêmes, s'ils connaissent la psychologie uniquement par les sciences sociales, et je ne voudrais pas aller plus loin pour ne pas faire trop d'ennemis, si vous voulez, parce que la psychologie est essentiellement une science sociale aujourd'hui en France et dans les pays latins, alors que ça n'est pas le cas aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, où la psychologie évolutionniste, qui se propose de tout baser sur la connaissance de la biologie et de la physique à le vent en poupe, eh bien, les gens eux-mêmes doivent être informés de façon scientifique sur leur propre fonctionnement. L'éducation, on l'a dit. Et ensuite, il y a des techniques, en fait, des petits trucs qu'on appelle les nudges, par exemple, qui sont utilisés par certains communicants aujourd'hui. Un nudge, c'est un petit coup de pouce cognitif, c'est-à-dire... Un nudge, c'est une façon de vous mettre dans une position ou mettre un produit dans une situation où vous présentez une option par défaut. Vous n'avez l'air de rien dire, vous délivrez une information, mais vous espérez que de façon non coercitive, cette information va influer votre comportement. Par exemple, on s'est étonné longtemps de savoir pourquoi, en France, 98% des Français étaient des donneurs de sang, alors que seulement 15% des Américains étaient donneurs de sang. Mmh. Simplement parce que l'option par défaut, en France légalement, c'est que vous êtes donneur de sang, sauf si vous en avez exprimé la volonté inverse, « je ne veux pas être donneur de sang ». Aux États-Unis, c'était jusqu'à l'époque récente l'inverse. Pour être donneur de sang, il fallait avoir expressément dit qu'on voulait être donneur de sang. Et donc, quand vous exprimez les choses, si l'option par défaut est non, le pourcentage de oui va être très faible. Si l'option par défaut est oui, je suis donneur, l'option par inverse va être faible. Donc, vous voyez, donc les nudges sont une façon... d'influer le comportement en jouant sur les biais.
Autour de la question comment justement jouer ou déjouer nos biais cognitifs et pourquoi il y a tout intérêt et même urgence à le faire, on écoute Stromae sur RFI, Humain, Allô.
humain, pas vous. Primaire et pas vous. Si évoluer c'est ça, moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler de glacier, si couler, moi fâché. Je saurai où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui, oui, retiens-moi bien. Persigne tout comme les tiens. Le même trou qu'à la couche d'ozone, je te le ferai. Allez, tu peignes mes vols, vol, voyage. Fais-les tes reportages, mes potes collent. Crache loin dans votre bol de potage, dans votre monde de Gotha. Moi, je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, trop bêta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue, pue le coup d'état. Pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir. Toi pas comprendre, pas parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider. Donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si... tel, trop risqué d'être écouté, mais ma telle, telle ou telle heure, c'est un euphémisme. Oui, je t'idéalise, la culture de la bêtise, de ça, oui, je suis raciste.
Humain, allô, allô les humains, c'est Stromae qui nous interpelle sur RFI. Autour de la question comment déjouer les biais de l'esprit résultant de notre vieux cerveau qui a bien réagi mais qui a du mal à réagir aux enjeux contemporains, à s'adapter à une réalité autre et changeante et à s'adapter aux autres, Jérôme Boutan, parce que ce que soulève aussi Stromae dans cette chanson, c'est la question des autres, du racisme, des stéréotypes, des jugements, des préjugés. Ça aussi, ça fait partie de nos biais de l'esprit.
Alors, il faudrait que je réécoute cette chanson qui est complexe.
Elle est
intéressante,
complexe, hein, je suis d'accord. Hein.
Mais j'ai quand même retenu au moins deux messages intéressants. Il y a un premier message qui est effectivement une interpellation par rapport à des problèmes qui peuvent se poser en société, et on le sent bien par rapport à de grands enjeux. On parle de biodiversité, on parle d'insectes, de mammifères, etc. Et de racisme. Et puis d'autre part, sur la façon dont on parle de ces choses, comment, quel est le procédé qui permettrait, moi, de te faire comprendre, etc. Comment peut-on faire comprendre aux autres ces nouveaux défis? Donc là, il y a évidemment tout l'enjeu. Donc avec Michel Delarade, on pense que la psychologie évolutionniste est un bon terreau de connaissances permettant justement de communiquer ces enjeux. Ces enjeux sont, une grande partie, totalement nouveaux. Donc il y a des enjeux qui sont liés à la technologie, par exemple le transhumanisme, les OGM, la fracturation hydraulique, je les mets dans le désordre, les
ondes électromagnétiques,
interconnexions, etc. Et puis des effets sociaux, les médias sur Internet, l'abondance d'informations, une abondance non contrôlée, etc. Donc là, ça tombe de défis qui ne se posaient pas, le changement climatique, pollution atmosphérique, on l'a dit, la perte de biodiversité, le nucléaire, et j'en passe. Et puis d'autre part, il y a les problèmes du vivre ensemble parce que un croisement des cultures, des migrations, des défis communs, il faut pouvoir coexister.
Plus de 7 milliards d'habitants sur la planète.
Voilà, donc beaucoup de choses assimilées qui ne font pas partie de l'environnement auquel notre cerveau a été préparé. Donc,
et où on a l'impression qu'on assiste parfois à une régression. On va y revenir, mais juste après cette question soulevée par un éminent mathématicien, humaniste et engagé, le professeur Jean-Pierre Bourguignon, président du Conseil européen de la recherche, qui s'interroge et vous interroge, Jérôme Boutan.
Peut-être justement, ce qu'on n'apprend pas assez à l'école, c'est être vigilant sur ses biais. Donc, comme c'est les préjugés, c'est la chose absolument terrible. C'est comme ça qu'on bâtit le racisme, la xénophobie et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a des gens qui s'ingénient à cultiver ça beaucoup. Justement, peut-être la question à leur poser, c'est quel rôle l'école peut-elle avoir pour justement essayer de dépister ses biais et puis les redresser s'il y a lieu.
Vous avez une réponse, Jérôme Bouton, à cette grande question. Comment discipliner nos biais de l'esprit, notamment dans nos rapports avec les autres, hein, pour ne pas régresser ?
Alors, redresser, ça me semble trop fort, parce que, et puis pour toutes les connotations de redresser, discipliner les biais, probablement, il faut voir que, à l'origine, comme toujours, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, un préjugé peut être utile jusqu'à une certaine proportion, jusqu'à une certaine mesure, puisque qu'est-ce que fait le préjugé ? Il permet, comme une heuristique, de tirer des conclusions claires et plus claires et surtout très rapides pour se permettre de se protéger, par exemple. Mais lorsqu'il est poussé trop loin, préjugé par exemple de race, préjugé sur un groupe, il dévie de sa fonction initiale d'adaptation et introduit un malaise, introduit un dysfonctionnement dans la société, dans les rapports aux autres, etc.
Et qu'en plus, aujourd'hui, on essaye de raisonner ou de trouver logique, enfin.
Oui, mais là encore, une fois, toutes les méthodes, probablement, pour raisonner les biais ou se raisonner ne se valent pas.
Et ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. Donc, il faut probablement... L'éducation a un rôle à jouer sur... fondée sur la connaissance évolutionniste du cerveau, d'une certaine connaissance de ses propres biais, probablement, pour être distillée, pour être à certains élèves, à partir d'un certain âge, à imaginer, disons, un âge où le câblage neurologique est fait, par exemple, à partir de 11 ans, peut-être. Donc, des méthodes sont à créer autour de la psychologie évolutionniste. Tout ceci est en devenir, ne l'a pas été fait encore aujourd'hui.
Pour en être conscient.
Pour en être conscient, et ensuite, mais même dans la façon dont ceci est exprimé, se servir dans le support même du média de communication, du moyen de le faire savoir ou de faire comprendre, se servir de ces mêmes biais. Mais effectivement, qu'est-ce qu'un préjugé, un stéréotype, et pourquoi c'est mauvais, ça peut être néfaste, alors qu'à l'origine, il y a bien une partie de biais, c'est que, en fait, le stéréotype, c'est déduire des caractéristiques moyennes d'un groupe, d'individus, les caractéristiques attendues d'un individu particulier. On dit parce qu'il appartient à tel groupe que j'aurais identifié et que la moyenne groupe présente telle ou telle caractéristique, cet individu doit bien présenter ses caractéristiques. Alors, jusqu'à un certain niveau, encore une fois, ça pouvait présenter une certaine utilité, mais on voit bien que ça mène directement au racisme. Et donc, c'est uniquement en connaissant la façon dont on était arrivé à ces conclusions, et notamment, il faudrait, mais on n'a peut-être pas le temps, mais se référer à l'ouvrage de Boyer sur « Et quand l'homme créa les dieux », qui montre que le cerveau n'est pas doté d'une encyclopédie de cas qu'il faut traiter, mais ce qu'il appelle un système d'inférence. C'est-à-dire que nous sommes câblés pour tirer des déductions de l'appartenance de quelque chose à certaines classes. Donc, par exemple, il y a la classe des objets inertes, il y a la classe des animaux, il y a la classe des artefacts, il y a des outils, la classe de la technologie, etc. Et en fonction de ce classement, vous attendez des propriétés de cet objet. Par exemple, si un projectile est lancé vers vous, vous attendez qu'il se déplace à une certaine vitesse et pendant un certain temps, mais vous attendriez une autre trajectoire s'il s'agissait d'un oiseau, par exemple. Et le racisme provient probablement du croisement, malheureusement, entre ces catégories, c'est-à-dire d'affecter, par exemple, à un humain la catégorie d'un objet. Et donc d'en déduire les caractéristiques d'un objet, de considérer l'humain comme un objet. Si vous voulez, donc, ces comportements ne sont pas totalement étanches. Là encore, c'est quelque chose qui est magnifique.
Et comme tout a changé, on sait bien que les humains ne sont pas des objets, heureusement d'ailleurs, mais que par contre, nos objets virtuels peuvent devenir un peu humains. On a du boulot par rapport à nos biais de l'esprit. Ouais. Merci en tout cas infiniment, Jérôme Bouton, d'être venu dans ce studio pour partager justement et déjouer nos biais de l'esprit. Est-ce que vous-même, ça vous sert à quelque chose au fait dans votre vie quotidienne ? Vous y arrivez un peu ?
Je vous assure que ça me sert beaucoup. On en parle souvent avec Michel, au niveau personnel et au niveau professionnel.
Livre à lire absolument donc, Les biais de l'esprit, comment l'évolution a forgé notre psychologie, coécrit avec le mathématicien Michel Delara, paru aux éditions Odile Jacob. Vous revenez quand vous voulez, Jérôme Bouton, merci.
Merci pour l'invitation.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez désormais aussi nous retrouver et nous podcaster sur Spotify. Avis aux amateurs, au plaisir de vous retrouver demain pour partager de nouvelles interrogations sur notre nature humaine avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Le prochain journal, c'est dans moins d'une minute.